t'es déjà demandé ce que ça ferait si quelqu'un pensait à toi jusqu'à dans les moindres détails, de ton bien-être à tes études en passant par tes sorties culturelles, le tout avec de la petite musique dans les oreilles? Eh ben tu sais quoi, t'es exactement là où il faut. Bonjour toi qui m'écoutes, bon appétit si tu manges entre deux cours, t'es en train d'écouter la nouvelle saison d'Étudiante Time, l'émission qui s'adresse aux étudiants en études sup, en galère ou non, pour des tips et astuces sur ta vie d'étudiant. La saison précédente a tellement bien marché qu'on a décidé de doubler la mise. Profite non pas de 30 minutes, mais d'une heure avec nous qui t'est directement adressée. Moi, c'est Myria, animatrice de cette émission et étudiante en psychologie à l'UQO d'Angers. Je passe mon temps à m'intéresser à des trucs et à te les partager ici. On a de nouvelles recrues dans l'équipe. Bienvenue à Malo, notre nouveau chroniqueur, pour te débusquer les bons plans. Puis Colin, qui est en études de journalisme à l'UQO, qui va t'informer des actus qui te concernent. Le dactylo sera également parmi nous, ainsi que notre invité du jour, dont je vais parler juste après. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau concept. Donc je vais annoncer le programme du jour. On va démarrer par le journal étudiant présenté par Colin pour avoir toutes les news qui concernent les étudiants en études supérieures. On enchaînera avec un court temps d'échange sur les actualités en question. Pour les jeunes encore un peu hésitants, le focus étudiant présenté par le dactylo va vous informer à propos des formations post-bac. Il n'est pas encore trop tard. Après ça, je vais recevoir un invité hyper spécial parce que c'est celui grâce à qui existe cette émission, Fahadi, et je vais lui faire dire tout ce que vous voulez savoir sur les coulisses de la radio. Ensuite, je vais donner exceptionnellement l'astuce étudiante en parlant de comment avoir un animal de compagnie quand on est étudiant, en parlant de l'association Un cœur sans toi. On aura un court échange à ce propos avec les personnes présentes sur le plateau. Bien sûr, on n'oublie pas la chronique santé mentale qui, avec la rentrée, doit toucher beaucoup de monde qui se sentent déprimés ou en perte d'intérêt. Un débat de 10 minutes sur le sujet aura lieu entre nous sur le plateau. Et enfin, on aura le droit à la chronique « Ça sort où ?» où notre nouveau bénévole et chroniqueur Malo va nous donner les événements à venir pour te divertir. On commence l'émission avec les actus de Colin dans le journal étudiant.
Bonjour Myria et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, des lycéens invités à se glisser dans la peau d'étudiants. Une rentrée 2025 marquée par la stagnation du nombre d'inscriptions dans l'enseignement supérieur. Et pour finir, la condamnation d'un homme à 18 ans de prison pour le viol d'une étudiante, l'occasion de rappeler quelques conseils de prévention. On commence donc ce journal avec une belle initiative qui pourrait intéresser les futurs étudiants. L'Université catholique de l'Ouest à Angers propose une nouvelle fois son opération « Tester l'université ». C'est en ce moment du 21 au 24 octobre, pendant les vacances d'automne. Des lycéens de première et de terminale peuvent venir vivre la vie d'un étudiant le temps de quelques jours. Au programme, des cours magistraux, des travaux dirigés, des ateliers et des visites du campus. L'objectif est simple, mieux comprendre le fonctionnement de la fac et affiner son projet d'orientation. Une expérience gratuite et ouverte à tous qui rencontre chaque année un vrai succès. Plus de 600 lycéens y participent. Et pour ceux qui auraient manqué cette session d'automne, pas de panique, une nouvelle édition aura lieu pendant les vacances d'hiver, du 17 au 20 février prochain. Une façon idéale de découvrir l'université avant même d'y faire sa rentrée. Une belle occasion aussi pour l'UQO de renforcer ses liens avec les lycées de la région et de susciter de nouvelles vocations parmi les futurs bacheliers. Et en parlant d'université, une tendance inattendue se dessine à Angers. Le nombre d'étudiants pourrait bientôt commencer à baisser. C'est une première depuis longtemps. À la rentrée 2025, les effectifs étudiants stagnent. La ville compte entre 45 000 et 47 000 étudiants, soit environ un tiers de sa population. Selon l'Observatoire territorial du logement étudiant, cette stabilisation marque la fin d'une forte croissance amorcée il y a plus de 10 ans. En cause, la baisse démographique. Les projections indiquent que le nombre de bacheliers devrait se maintenir jusqu'en 2031 avant de diminuer. Une baisse du nombre d'étudiants est donc prévue pour 2033. Une évolution qui pourrait aussi se faire sentir sur le marché du logement. La fameuse tension que connaissent les nouveaux étudiants angevins pour se loger est déjà moins forte cette année. Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, la métropole d'Angers prévoit donc de ralentir la construction de nouvelles résidences étudiantes. Une tendance à surveiller, même si Angers garde tous les atouts d'une ville étudiante attractive, entre dynamisme associatif et cadre de vie agréable. Et on termine ce journal avec une information plus grave qui rappelle aussi l'importance de la prévention et de la sécurité des étudiants en soirée. Mardi 14 octobre dernier, la cour criminelle de Maine-et-Loire a condamné Ramzi Mefta, âgé de 32 ans, à 18 ans de réclusion criminelle pour le viol d'une étudiante en médecine à Angers. Les faits remontent à mai 2022. La jeune femme, alors âgée de 25 ans, rentrait seule d'une soirée lorsqu'elle a été agressée en plein centre-ville. L'homme, sans domicile fixe, avait été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance et à des traces ADN retrouvées sur la victime. La cour a justifié la sévérité de la peine par, je cite, « l'importante gravité des faits et le danger que représente l'accusé pour la société ». Et parce que ce type de drame nous concerne tous, un rappel important, si vous rentrez de soirée, privilégiez les trajets en groupe ou les taxis. Et en cas d'agression ou de situation à risque, plusieurs dispositifs existent, le 17 pour contacter la police ou le 3919, le numéro d'écoute nationale pour les victimes de violences sexuelles. Voilà pour moi en ce qui concerne les informations principales, et je voudrais maintenant revenir avec vous sur ce dispositif testé l'université mis en place à l'UCO. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce que à la place des lycéens, c'est quelque chose qui vous aiderait dans votre orientation post-bac? Et est-ce que, plus précisément, vous-même, vous avez eu l'occasion de bénéficier d'un dispositif comme celui-ci?
Pour ma part, j'y suis déjà allée. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'être un peu immergée dans l'université pour la première fois. En plus, on peut assister, du coup, comme tu as dit, à des vrais cours, voir si on arrive à suivre, à prendre des notes, aussi peut-être pour se repérer au sein des différentes classes, parce que c'est super grand quand tu sors du lycée et que t'es un peu perdu. Malo, je sais pas trop si toi tu connaissais.
Moi je connaissais pas du tout. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'aurais beaucoup aimé bénéficier, parce que les portes ouvertes c'est intéressant, mais c'est pas toujours suffisant. Donc ouais, un dispositif comme ça pour aller dans différentes facs et faire, si j'ai bien compris, des petits cours avec les étudiants, je trouve que ça peut être hyper intéressant et ça devrait être beaucoup plus répandu.
Et donc, on le rappelle, pour ceux qui auront loupé cette session d'automne, la prochaine aura lieu pendant les vacances d'hiver, du 17 au 20 février prochain. Donc voilà pour ce journal étudiant. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur les infos qui vous concernent, vous, les étudiants.
Merci Colin pour ce tour d'horizon hyper clair sur l'actualité. Allez, on poursuit. Maintenant, place au focus étudiant avec le dactylo sur les formations post-bac. Parce que oui, même fin octobre, tout n'est pas perdu.
Salut toi, étudiant, étudiante ou même pro en quête de nouvelles perspectives. T'as déjà pensé aux sciences criminelles?
Ouais, on te parle bien de criminologie, de médecine légale, de police scientifique. Tout ce qu'on voit dans les séries, mais en vrai. Si t'as déjà rêvé de marcher dans les pas de Maggie de NCIS ou de Derek Morgan dans Esprit criminel, que t'as une âme d'enquêteur ou de juriste et que tu souhaites comprendre les rouages de la criminalité, ce qui suit devrait t'intéresser. On va te parler du DUSC, le diplôme universitaire en sciences criminelles de l'Université d'Angers. Une formation complète et 100% en ligne, qui s'adresse autant aux étudiants qu'aux professionnels du droit, de la santé ou de la sécurité.
Le principe, de donner une vision large du phénomène criminel. On y croise le droit pénal, la criminologie, la psychiatrie, la psychologie, la médecine légale et même la police scientifique.
Franchement, c'est du solide. 150 heures de cours, de novembre à juin, avec des intervenants au top. Universitaires, magistrats, psychiatres et même experts judiciaires.
Et c'est pas juste pour faire joli sur le CV, t'as des QCM à chaque module et une vraie validation. D'ailleurs, le taux de réussite de la dernière promotion a atteint les 83%. Plutôt rassurant, non?
Et le petit plus, tu peux suivre toute la formation ou juste les modules qui t'intéressent. C'est totalement à la carte. Super pratique si t'as déjà un projet précis en tête.
Genre, t'es passionné par la médecine légale, mais le droit pénal, c'est pas trop ton truc. Aucun souci, tu choisis ce qui te parle.
Côté admission, par contre, il faut un bac plus 2 minimum, en droit, médecine ou sciences sociales. C'est embêtant si t'es encore en terminale, mais si t'es plutôt quelqu'un qui aime prévoir ses coups 3 fois à l'avance, ça peut être pratique de savoir ce qu'il est possible de faire pour compléter une formation, même des années après l'obtention de ton diplôme. Et une fois que t'as coché ce critère, c'est une sélection sur dossier, entre le 19 août et le 4 septembre 2025. Et si t'es prêt aux prises, la formation commence en novembre.
Ah, et côté tarif, prévoit 250 € si t'es étudiant, ou 3 500 € si tu suis la formation en tant que pro. Un investissement, mais clairement rentable si tu veux bosser dans le domaine aussi passionnant que celui d'Olivia Benson ou de l'équipe de Bones.
Ah, et petit rappel, le DUSC, c'est un diplôme universitaire, donc pas un master ni une licence, mais une certification reconnue délivrée par l'Université d'Angers qui te spécialise dans un domaine très recherché.
C'est clairement une valeur ajoutée, que tu sois en reprise d'études, en réorientation ou en formation continue. Et ça te prépare aussi super bien pour les concours du domaine pénal. Alors, si t'as toujours eu un attrait pour l'univers judiciaire, les sciences humaines, et que tu aimes analyser les comportements, fonce voir le DESC.
Et puis, si certains ont pu faire carrière en déchiffrant les scènes de crime, pourquoi pas toi, hein ?
Toutes les infos sont sur le site de l'Université d'Angers. Et si t'as des questions, tu peux même contacter directement les responsables pédagogiques Lionel Asensi ou Caroline Duparc.
On espère que ce petit zoom t'aura éclairé sur une voie qu'on n'explore pas assez souvent et pourtant qui est super intéressante.
Surtout, prends le temps de te renseigner, de te poser des questions. Si le DESC t'intrigue, c'est peut-être parce que la formation est faite pour toi.
Et t'en fais pas, orientation rime pas toujours avec stress, faut pas se mettre de pression. C'est normal d'être un peu perdu et de se questionner sur son avenir professionnel.
Retrouve cette chronique sur radio-g.fr, rubrique Étudiant Time. Et surtout, bon courage pour tous tes projets.
Salut!
Merci le Dactylo pour ce focus super utile. On oublie souvent que beaucoup de portes restent ouvertes et c'est rassurant de le savoir. Et justement, en parlant de portes ouvertes, on va maintenant ouvrir celle de Radio G. J'ai l'honneur de recevoir un invité très spécial, Fahadi. C'est grâce à lui que cette émission existe. On va parler avec lui de tout ce que vous n'imaginez pas sur les coulisses d'une radio, comment ça se fabrique, comment on démarre, ce que ça demande et ce que ça apporte. Tu produis plusieurs émissions ici à Radio G. Tu accompagnes pas mal de bénévoles et de jeunes qui débutent. Mais avant d'en arriver là, comment tout a commencé pour toi ? Est-ce que tu te souviens du tout premier déclic qui t'a fait aimer la radio ?
Oui, c'était pendant ma formation. Parce que moi, je consommais beaucoup de télé avant. J'étais très télé, vidéo YouTube surtout. Et la radio, je voyais ça de loin. Et quand je suis allé me former en études d'audiovisuel, donc production télé, il y avait une dimension radio aussi. Et du coup, j'ai découvert la radio à ce moment-là. J'ai fait plusieurs stages, plusieurs expériences et surtout mon volontariat en service civique dans une radio à Paris. Et là, je me suis dit, putain, je kiffe trop. Le rythme est trop bien et juste utiliser la voix pour transmettre des émotions, je trouve que c'est un pouvoir incroyable. Et après, je fais ciao la télé, bonjour la radio.
Parfois, il y a un moment où justement, la passion, comme tu parlais au début de télé, de YouTube, tout ça, ça devient un engagement.
Ouais.
Du coup, pour toi, comment dire, quand est-ce que ça a été le tournant où tu t'es dit, en fait, j'aime bien la radio, jusqu'à, je veux vraiment en faire mon métier à plein temps, quoi.
Pendant mon volontariat, parce que j'étais bénévole dans la structure où il y avait un atelier radio avant à Paris, et moi, je venais juste animer une émission. Avec la maison de quartier. Et c'est la maison de quartier qui m'a dit, au bout d'un an, si tu veux, on peut te prendre en volontariat en service civique pour continuer l'expérience radio et développer l'activité radio chez nous. C'était tous les samedis. Et là, moi, j'ai eu un déclic en me disant, ah oui, en fait, je peux être payé pour faire un truc que je kiffe. Et du coup, c'est trop stylé. Bon, j'étais parti me former pour ça, mais je pensais que ça aurait été très, très, très compliqué. Et en fait, juste par passion et par détermination, par travail, ça a fonctionné. Et à la suite du volontariat, j'ai commencé avec l'expérience que j'avais à chercher d'autres pistes, d'autres portes pour continuer à professionnaliser tout ça.
T'aurais pu faire de la radio ailleurs, mais aujourd'hui, t'es à Angers. Mmh. Qu'est-ce qui fait que t'as choisi Angers et surtout pourquoi Radio G ?
Radio G, parce que c'est une radio que je connais depuis tout petit. J'ai grandi à Angers.
Okay.
Et je passais devant. Avant, ils étaient situés avenue Pasteur. C'est leur adresse emblématique que tous nos anciens connaissent. Et je passais tous les matins en bus devant. Et je me disais, oh, il y a une radio, ce serait intéressant d'aller voir, d'aller jeter un coup d'œil. J'étais très jeune, donc je ne pouvais pas et tout. Et moi, je suis revenu à Angers parce que Paris, ça me gonflait.
C'est particulier.
Le rythme parisien, ça me saoulait. C'était horrible. Je suis resté 3 ans à Paris pour la formation, activité bénévole, etc. Et en fait, j'ai commencé à prendre leur attitude. Aigri, mal parlé, j'en avais marre de la vie. Tout était fade, je sais pas, j'aimais rien. Et je me suis dit, je reviens à Angers, il y a toute ma famille, il y a tous mes potes. Et quand j'ai commencé à... J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé tout de suite. Et quand Radio G a proposé l'emploi... Radio G a proposé d'abord de faire des émissions en bénévole. Je me suis dit, vas-y, je reprends la radio. Et en même temps, il y a eu l'offre d'emploi qui est parue. Je me suis dit, vas-y, je fais les deux, let's go. Candidature, machin, et ça a marché.
Bien joué.
Merci.
Concrètement, à quoi ressemble une journée type pour toi à Radio G? J'imagine que c'est pas mal de techniques, de suivi, coordination, mais il y a aussi le côté relationnel avec les équipes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
C'est beaucoup d'administratif sur nos missions à nous, les salariés. Donc nous, on gère une asso avec le bureau. Et dans l'asso, il y a une centaine de bénévoles. Et donc, nous, nos missions, c'est de faire en sorte que les émissions portées par les bénévoles et les bénévoles eux-mêmes ont une bonne expérience. Et en plus de ça, moi personnellement, je suis responsable de l'activité jeunesse à Angers. Et donc, je produis et j'anime une émission de radio. Donc, en gros, ma semaine, elle se coupe en trois, entre former des personnes à l'extérieur à l'outil radio, donc savoir faire de la radio, écrire des chroniques, etc. Administrer la radio, donc prendre contact avec les bénévoles, voir comment ça va, comment les émissions tournent, et produire mon émission. Donc chaque semaine avec mes équipes bénévoles, je prévois du temps pour faire de la gestion d'équipe, vérifier les chroniques et contacter les invités. Donc la journée type, elle existe pas. Ça tourne en fonction des rendez-vous, des mails, des positions.
En tout cas, ça a l'air assez dense.
Ouais, c'est dynamique.
Est-ce que tu as plutôt un profil introverti ou extraverti? Et comment on trouve sa place à la radio en fonction de ta réponse?
Des barres. Sur le perso, moi j'ai un profil très introverti. Je suis très caché. En fait, ce que je dis toujours, vu qu'on fait un métier d'image, de communication, de médias, on est là pour parler aux gens, être présent, sourire, on fait du relationnel. Quand je rentre chez moi, j'aime bien couper et me dire... pas de bruit, on coupe, laissez-moi tranquille, et je me mets dans mon coin. Donc au travail, je suis très extraverti, très solaire, je partage ma passion aussi, donc il y a ça qui joue, et je transmets ça aux équipes, et oui, donc chez moi je suis introverti. Et ta seconde question, c'est comment on fait pour avoir sa place à la radio?
C'est comment on trouve sa place à la radio, Là c'était un peu vis-à-vis de l'introversion, comment tu fais pour être extraverti quand t'es à ton taf alors que t'es plutôt introverti?
Je me dis que je travaille et que du coup je mets la casquette de l'animateur ou la casquette du responsable ou la casquette de un peu un côté théâtral quoi, où je joue pas un personnage mais je me dis ok, je ne suis pas moi du privé, je suis moi de l'extérieur. Et moi personnellement qui suis un peu un inquiet de temps en temps, un peu heureux, ça me donne du courage de me dire
moi je suis un peu heureux,
au privé en tout cas, aller voir quelqu'un de manière frontale et dire « Hey, salut, comment ça va ?» Fou, jamais de la vie. Dehors, jamais je fais ça, c'est impossible. Alors que si c'est pour le cadre de la radio, du rendu, de ce dont j'ai besoin, là je me dis « c'est bon, je mets la casquette du producteur, j'y vais et puis je pose mes questions, il n'y a aucun problème. » Et voilà.
Ça marche. Merci, c'est très intéressant. On te garde avec nous pour la deuxième partie de cette interview, mais une petite pause s'impose. Oui. Pour ça, rien de mieux que la pause musicale avec un son de ton époque, des années 90. La musique phare de cette scène mythique du film Napoléon Dynamite, j'ai nommé Canned Heat par Jamiroquai. À tout de suite et bonne écoute.
Dancing, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through.
Écoutez, Can It Hit par Jamiroquai. Bon retour parmi nous dans Étudiant Time. On est toujours à l'antenne avec Fahadi qui nous raconte le quotidien d'un employé à Radio G. Fahadi, dans ton parcours, il y a sûrement eu des gens qui t'ont transmis ou au contraire des moments où tu t'es fait tout seul. Comment on grandit dans la radio? Est-ce que n'importe qui peut monter en compétence ou est-ce qu'il faut un certain instinct, une oreille particulière, réussir à tomber sur les bonnes personnes au bon moment?
Je pense que tout est formateur. C'est très bateau de dire. Je pense que tout est formateur parce que tu apprends autant des erreurs que tu fais, donc des mauvais choix, des mauvaises choses, que des initiatives qui ont porté leurs fruits et des tentatives d'expériences de projets qui ont marché. L'avantage en radio associative, c'est qu'on a un peu, que ce soit salarié ou bénévole, on a un peu une liberté de proposition. On a un champ des possibles qui est assez illimité. On est là pour donner la parole aux gens, aux angevins, et nous pour proposer des nouveautés. Donc je pense qu'on grandit en prenant des risques. C'est toujours aussi bateau. Mais je pense qu'on grandit en tentant des choses. Si tu restes dans ton coin, tu t'assois, tu dis bon, moi, mes missions, c'est de faire ci, ça, ça. Ok, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça. En fait, tu stagnes et t'avances pas, et c'est un peu triste, quoi, pour te développer. Mais si tu tentes de temps en temps de nouvelles choses, de nouveaux projets, des ouvertures, tu te mets à jour par rapport à ton territoire, par rapport à ton public, et que tu testes des choses, selon moi, c'est comme ça que tu grandis. Je sais pas si je réponds à la question.
Si, je pense, mais est-ce que du coup, t'es tombé sur une personne qui t'aurait transmis quelque chose de, que t'as trouvé vraiment utile pour ton taf aujourd'hui à la radio?
Non. j'ai eu des...
Allez voir les gens, mais bon, ils m'ont jamais rien appris.
Mais en fait, professionnellement, j'en suis aujourd'hui à ce stade, en tout cas à Radio G, où j'ai suffisamment appris du passé pour que maintenant c'est moi qui puisse transmettre. Donc peut-être que je serai la personne entre guillemets qui pourrait transmettre des choses, des valeurs, mais moi j'appelle ça les maîtres Jedi, parce que j'aime beaucoup Star Wars. Et du coup, moi, mes maîtres Jedi qui m'ont appris des trucs très singuliers, très précis, très pro et très perso, je les ai rencontrés dans mes activités d'avant. Mais ici, j'ai un peu cette satisfaction et cet accomplissement de me dire ok, j'ai eu un long parcours et j'ai la chance de pouvoir transmettre maintenant. Mais j'ai pas de personne aujourd'hui, de maître Jedi, qui m'a dit écoute Fadi, voici une astuce, et que je me sois dit oh, mais oui, j'avais jamais pensé. Mes collègues m'apprennent de nouvelles choses que j'avais peut-être pas vues, ou une autre manière de travailler et de penser, mais pas de grosses choses de fou.
Je comprends. Aujourd'hui, on vit dans une époque d'images, de scroll, de format très court, très vif. D'après toi, qu'est-ce qui fait que la radio reste un média indispensable?
Oh, la question piège.
C'est le moment de défendre la radio.
La radio reste un média indispensable. C'est très drôle. Ça va partir un peu politico-politique, mais la radio, on voit son intérêt que dans les moments de crise, où y a de la guerre, il y a des soucis en France, etc. À la radio, t'as que des personnes qui parlent du concret, qui parlent premier degré, etc. Et donc on voit son importance à ce moment-là. Par contre, quand tout va bien, comme nous en France, même si le gouvernement joue à la chaise musicale, nous ça va dans l'ensemble. Et du coup là, je trouve que la radio, elle a son intérêt pour se cultiver, apprendre, rencontrer, se cultiver et découvrir aussi. Et je trouve qu'elle a un intérêt là-dedans, là où la télé et les réseaux sociaux, à cause de l'image, sont plus un, des outils de stimulation profonde où t'es là pour chercher de la dopamine, du kiff et tout, mais après basta, tu pars. Alors que la radio, t'as ce truc où tu te poses, t'écoutes comme un podcast et mine de rien, t'apprends quelque chose. Donc je trouve qu'il y a cette valeur là de d'apprentissage, je pense, et de moments tranquilles que tu peux avoir à la radio que on n'a pas à la télé.
Mais du coup, ce serait quoi la différence entre un podcast et une émission de radio?
Ah, ça c'est fou. Un podcast, en gros, c'est quand tu discutes avec tes potes dans chez l'un des trois potes, souvent celui qui a le meilleur appart.
Le plus riche.
Ouais, c'est celui qui est bien, quoi. Le plus riche ou celui qui a travaillé sévère l'année dernière et qui est là, qui a un bon appart.
C'est très précis.
Ouais. Peut-être que je cible des gens. Bonjour Marcus. Non, j'ai tu te poses dans ton salon, tu discutes premier degré sans filtre avec tes potes. Ça, c'est un podcast. Et du coup, c'est juste tu discutes, voilà, il y a pas d'angle, enfin il y a pas de dynamique particulière. Il y a un thème souvent. Là où une émission de radio, c'est un temps de discussion mais dédié au divertissement et à l'information, il y a une cible, il y a un objectif et c'est surtout rythmé. Il y a une réflexion de rythme entre les musiques, les différents sujets et le but c'est de garder les gens en activité, en haleine en gros sur ce qu'on dit pour qu'ils puissent et passer un bon moment et apprendre quelques petites choses durant l'heure d'émission. Et ça va être ça la différence. Le podcast, c'est plus on se pose, on discute tranquillement. Et la radio, vous venez écouter de la radio si vous cherchez une sensation particulière.
Et justement, comment tu vois l'avenir de la radio entre podcast, comme on vient de le dire, intelligence artificielle, différentes plateformes? Est-ce qu'on doit repenser la manière de faire de la radio ou simplement continuer à bien la faire?
Continuer à bien la faire, comme tous les autres médias. Peut-être l'adapter aux nouvelles normes. Mais c'est un peu comme tout, hein. Le média, selon moi, ça fait partie du domaine du spectacle vivant, parce qu'on propose du divertissement, de l'information aux grands groupes, et on est vivant, c'est du spectacle vivant. Et comme le théâtre, comme le streaming, comme la musique, la danse, etc., ça évolue avec son temps. Ça évolue avec son temps dans le sens où maintenant, il y a beaucoup de vidéos sur les plateformes. Il y a de l'intelligence artificielle, soit pour la création musicale, soit pour la proposition d'effets, de clips, les retouches, etc. Et je pense que la radio doit prendre toutes ces nouvelles normes et les inclure dans sa manière de fonctionner pour s'aligner à ce qui existe déjà et continuer à proposer ses productions aux nouveaux publics aussi qui arrivent. Sans oublier les anciens qui vont rester sur l'ancienne méthode. Donc se mettre à la page et tenter des nouveautés.
On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais tu formes, tu accompagnes, tu écoutes énormément. Qu'est-ce que tu essayes de transmettre à ceux qui passent par Radio G? Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent, même s'ils partent ailleurs ensuite, comme nous par exemple, bénévoles aujourd'hui?
L'idée, c'est que sur le passage à Radio G, notamment pour les bénévoles, vu que les bénévoles ne sont pas payés, ils prennent du temps personnel pour venir pratiquer de la radio. Personnellement, mon objectif principal, c'est de passer un bon moment. Parce que c'est pas une activité professionnelle, c'est un hobby, c'est un kiff de venir faire de la radio ou découvrir de la radio. Donc, comme tout kiff, c'est dans le terme, si vous prenez pas de plaisir, ça n'a aucun intérêt. Autant partir faire un truc qui vous fait kiffer ailleurs. Donc moi, j'essaye de transmettre ça d'abord. Et pour bien kiffer la radio, il faut savoir bien la faire. Et là, moi, j'arrive avec les bons outils, les bonnes méthodes pour que les chroniques soient bien faites, les animations d'émissions soient bien faites, tout en prenant en compte la sensibilité des personnes. Je vais pas formater des gens de manière carré en mode tu fais de l'animation comme ça et pas autrement parce que sinon t'es nul. C'est pas l'idée. Donc je prends l'ADN de la personne, j'échange un peu et je lui dis voilà ce qui doit être fait pour une bonne chronique ou une bonne animation. Par contre, selon ta sensibilité, voilà comment tu peux l'orienter, tu peux bouger. Et si tu parviens à maîtriser ta chronique ou ton émission de cette manière, et ben plus facilement tu prendras du kiff à tout faire. Donc c'est beaucoup de taf, mais pour mieux profiter derrière.
Et ma dernière question, volontairement simple, qu'est-ce que la radio t'a appris à toi, sur les gens, ou sur toi-même, si tu préfères?
Sur les... Ça peut être les deux?
Oui, bien sûr.
Sur les gens, ça m'a confirmé, parce que j'avais déjà une idée de ça, mais ça m'a confirmé le fait qu'il y a tellement de diversité. C'est un truc de fou. On croise des gens partout, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans le...